Mais ce qu'il désire avant tout, quand il vient dans nos vies, il veut changer ce qui est à l'intérieur. Et tout ce qui est religieux cherche l'extérieur. Dans certaines religions, dans la plupart des religions, les prêtres ont des habits sacerdotaux ou pour exercer leur service. Mais en fait, ce que Dieu veut, c'est pas simplement mettre sur nous des habits. Il veut nous donner des cœurs. Des cœurs. Viens changer notre cœur. On l'a chanté. Et vous savez, encore cette semaine, j'ai fait l'expérience de mon cœur. Et je dois vous l'avouer qu'il n'est pas si beau que ça. Et quand je demande la puissance de Dieu, je demande la puissance de Dieu pour changer le cœur de Bruno et le cœur des gens. Je ne veux pas paraître, je veux être en Christ. Je veux vivre en Christ. Ça va, vous avez trouvé ? Il est sur le bureau. En plein centre, il était en plein centre. Voilà. Jésus, c'est le centre et mon message, c'est le centre. Voilà. Dans les derniers temps. Pourquoi je vous parlais de ça? C'est parce que, oh, vous savez, je suis très occupé, puis c'est un peu le thème qu'on peut rencontrer en discutant avec les gens. Quand vous rencontrez des chrétiens aujourd'hui, on est dans les derniers temps. Cette semaine au Bibliogroupe, c'était cette semaine ou la semaine d'avant? Notre frère qui nous enseignait disait, mais on est dans les temps depuis 2000 ans. Hein. Vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul, j'étais convaincu qu'on était dans les derniers temps. Ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers temps. C'est des derniers temps qui courent. Raymond DeVos aurait pu faire une... Pour ceux qui connaissent, pour les plus vieux comme moi, connaissent Raymond DeVos, il aurait pu faire toute une série de jeux de mots sur les derniers temps. Les temps, la moitié d'un temps, etc. Il y a des choses intéressantes à faire, tiens, ça me donne une idée. Ouais, donc on parle souvent des derniers temps. Et moi, la question de me savoir, c'est pas si je le suis dans les derniers temps, parce que je sais que je suis dans les derniers temps depuis 2000 ans. Avant même que j'étais né, c'était les derniers temps. La question est de savoir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois être dans ces derniers temps. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein, je pense que vous le savez, il y a plein d'enseignements qui vous disent, on est dans les derniers temps. J'ai vu un truc dernièrement, là, en Suède, ils mettent des puces. Forcément, on est dans les derniers temps, puisque les puces arrivent. Mais vous savez, quand le code-barre est arrivé, dans les années 70-80, on était dans les derniers temps, parce que le code-barre était arrivé. Et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on pensait que l'Antéchrist, c'était Hitler, et qu'on était déjà dans les derniers temps. On est dans les derniers temps, des derniers temps, des derniers temps. Oui. Mais toi, qu'est-ce que tu deviens dans ces derniers temps? Qu'est-ce que tu es dans ces derniers temps? Parce que Dieu attend de nous quelque chose, non? Et Jésus, il a suffisamment enseigné. Alors j'ai mis dans les derniers temps mon... J'aurais pu mettre numéro 1 parce que je pense que la semaine prochaine, je vais parler d'autre chose. Sur les derniers temps. Je l'ai dit combien de fois? Ça fait pas mal, quoi. Mais je parlerai encore de ça parce que je m'aperçois en fait qu'il y a eu tellement d'enseignements que plutôt que d'aller chercher si on nous sommes dans ces moments-là et quel sera ce moment-là. D'ailleurs, nul ne sait ni le jour ni l'heure, si ce n'est le Père. Ce qui m'importe, moi, c'est comment vais-je être et me comporter, quelles sont mes actions dans ces derniers temps, et quelle doit être l'attitude de l'Église. Non? Ça va, je vous suis là? Vous me suivez, pardon? Je vous suis forcément, vous me suivez. Ok. Alors on va prendre d'abord la deuxième épître de Paul à Timothée. Alors moi j'aime beaucoup la relation qui existait entre Paul et Timothée. C'était vraiment des relations... entre guillemets, père-fils, quasiment. Il y avait une forte relation entre deux. Et d'ailleurs, on considère cette lettre de Paul à Timothée comme la dernière lettre que Paul a pu écrire. C'est vraiment son testament. Il essaye de lui rappeler plein de choses. Je l'ai relu plusieurs fois cette semaine. Je trouvais vraiment, quand je regarde la manière dont Paul parle à son fils, Et comme je vois l'attitude de Timothée par rapport à Paul, oh, qu'est-ce que j'aime ça. Cette relation qu'il y a entre chrétiens, je connais tes larmes, dit Timothée, Paul à Timothée. Timothée pleurait parce qu'il voyait Paul emprisonné dans la captivité. Et la question que je vous pose, moi, déjà, dans ce que Paul a laissé, c'est est-ce qu'on est sensible à la souffrance des autres? Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on est saisi par la tristesse de voir aujourd'hui l'Église qui n'est pas toujours en bonne santé? Enfin, vous l'êtes, puisque vous êtes là. Mais est-ce qu'on recherche suffisamment ce type de relation avec nos frères et nos sœurs? Et Paul, il a enseigné, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça fait 2000 ans que les temps sont difficiles, en fait. Mais on est aussi dans une période où on vit des temps difficiles, bien que entre nous soit dit, je trouve qu'on n'est pas trop, on n'a pas trop à se plaindre. J'étais surpris la dernière fois, je ne sais pas si je vous en avais parlé déjà, mais c'était les informations. C'était un jeudi soir, et c'était la veille des annonces gouvernementales, vous savez, sur le pass sanitaire. Ou non, le pass vaccinal maintenant, ça a changé de nom. Et en fait, pendant un quart d'heure, au journal de 20h, on parle du pass vaccinal, etc., etc. On était tous là, nous les Français, donc il y a des gens qui se posaient des questions. Mais qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Oh, on va encore restreindre nos libertés, etc., etc., etc. Un quart d'heure, ça dure. Avec les réflexions des gens, j'ai rien contre ce que les gens pouvaient dire. Hein. Et puis, tout de suite après, on nous montre aux informations ce qu'est devenu l'Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir. Il faut se voir que ce pays est totalement dans la ruine. Il n'y a plus rien, à tel point qu'aujourd'hui, des enfants meurent de faim. Et j'étais saisi par ça, j'ai dit, oh Seigneur, je m'inquiétais il y a 5 minutes de mes libertés individuelles, et là il y a des gosses, des bébés dont on tirait la peau. Mes frères, mes sœurs, on tirait la peau, ils étaient tellement déshydratés que la peau restait détendue. Waouh! Ça m'a profondément attristé. Pas simplement que de voir, dans une même ville, en un mois de temps, ils avaient enterré 7000 enfants, morts de faim. Et nous étions en train de nous poser des questions sur nos libertés individuelles. Et je me suis dit, mais Seigneur, les jours difficiles, c'est là-bas qu'ils les vivent. Moi, je ne vis pas de temps difficile. Tous les jours, je me couche dans un lit bien chaud. Tous les jours, je mange à ma faim. Tous les jours, je prie, j'ai la liberté de prier. Tous les dimanches, et quand lorsqu'il y a des réunions à l'église, j'ai la liberté de me réunir et de louer ton nom. Et là-bas, Seigneur, il y a des enfants qui meurent de faim. Et l'église, aujourd'hui, tourne le regard sur ce qu'il ne faut pas regarder. Elle devrait tourner le regard sur ce pays, sur cette souffrance qu'il y a dans ce monde. Mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas dans des temps difficiles. Mes frères, mes sœurs, c'est rien ce que vous vivez, ce que je vis. Nous ne vivons rien de difficile. Maintenant, mettez-vous à la place de ce papa qui venait d'enterrer cette petite fille qui, derrière, en Afghanistan, il s'inquiétait pour l'avenir de l'autre. Elle travaillait tellement bien à l'école qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'école là-bas. Il dit, je voyais ma fille faire de belles études et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors mon cœur, aujourd'hui, est dans la souffrance, mes frères et mes sœurs. Parce que nous prenons beaucoup de temps pour nous. hier, j'étais à table, et je ne dis pas ça pour critiquer, hein. Vous avez le droit de manger et de réveillonner, hein. Mais à un moment donné, on en avait trop, quoi, à la maison. Moi, j'ai une femme qui prévoit toujours, l'année prochaine, on invite l'église au réveillon. Et je suis dans... J'ai mal au cœur, vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que j'ai toujours l'image de ce petit bébé de quelques mois, complètement déshydraté. La question est, que vais-je faire? Et j'étais content cette semaine. Je n'ai pas pu y aller, moi. Mais il y a des frères, des sœurs dans le groupe Betsalel qui ont réagi, qui ont dit, nous, on veut venir en aide aux démunis. On veut les aider. D'ailleurs, si vous avez tous reçu peut-être le message par mail où on demande des produits de première nécessité, vous pourrez les mettre là-bas derrière. Vous voyez, derrière le petit tube déco, là, derrière Julien. Voilà. On emmagasinera là pendant 2 dimanches et le 4 janvier, on pourra aller faire ce qu'on a à faire. L'Église doit prier. L'Église doit intercéder. L'Église doit louer. Mais l'Église doit servir le monde dans lequel elle se trouve. Sache que, j'en suis qu'au premier, la première phrase. Sache que dans les premiers jours, derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Et je pense que nous devons placer notre égoïsme clairement et honnêtement devant Dieu. Ils seront amis de l'argent. C'est pas qu'ils auront de l'argent, c'est pas le fait d'avoir de l'argent qui pose problème. C'est d'aimer l'argent qui pose problème. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, vous allez voir, on va parler de ça après, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais en fait, Paul est en train de dire, éloigne-toi de ce type d'attitude, mon fils Timothée. Éloigne-toi d'être égoïste. Éloigne-toi d'être calomniateur. Éloigne-toi d'être intempérant. Éloigne-toi d'aimer l'argent. Éloigne-toi. Parce que ça donne des, entre guillemets, des chrétiens bien habillés, qui ont l'apparence de la piété, ils vont au culte tous les dimanches matins, ils font leur petite prière et ils méditent la parole de Dieu, mais ils renient ce qui fait la force, et on va voir ce que ça veut dire. Éloigne-toi de ces hommes-là, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. Entendez bien, corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, Église, pour toi qui écoutes ce message, pour toi qui entends, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oh, ça fait plaisir à entendre, hein? Vous voulez servir Christ? Vous voulez aimer Jésus? Vous voulez vivre pieusement en Christ? Ne vous étonnez pas, nous serons persécutés. Et nous devons nous préparer à cela. Toi, demeure dans les choses que tu as prises. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et ça aussi, c'est intéressant. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, ça vous le connaissez, ce verset. Moi, j'ai dû l'apprendre par cœur. Mon pasteur m'a obligé à l'apprendre par cœur. lors d'une étude biblique. La semaine prochaine, vous aurez appris. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Hier, Marie se prenait l'exemple, une fois j'étais dans une église, dont je tairai le nom, et j'ai expliqué ça. J'avais une... Une femme, donc j'avais prêché ce jour-là, et puis je repartais. Et puis il y avait une femme qui était enceinte et qui poussait en plus visiblement, c'était productif chez eux, quoi. Enceinte et elle poussait un bébé dans sa poussette. Et le pasteur dit, pousse-toi s'il te plaît, laisse passer l'homme de Dieu. Je dis, hors de question que vous bougez, vous passez devant ma sœur. Parce que les hommes de Dieu, c'est vous. Les hommes de Dieu, ce sont ceux qui se laisse la parole de Dieu inspirer, qui se laisse enseigner par la parole de Dieu, qui se laisse convaincre par la parole de Dieu pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, afin que toi, homme et femme de Dieu, tu sois accompli et propre à toute bonne œuvre. J'en ai un qui est d'accord, c'est parfait. Des temps difficiles. Bien sûr que ça va être des temps difficiles. Bien sûr qu'on est 2000 ans, ça fait 2000 ans qu'on est dans les temps difficiles. Parce que ça fait 2000 ans que la nature humaine pécheresse n'aime pas la vérité. Plus encore, il s'oppose avec violence contre tous ceux qui proclameront et vivront la vérité. Tu veux proclamer et vivre la vérité, tu auras des temps difficiles. Jannès et Jambres. Alors, selon la tradition et certains textes du Talmud, ce sont deux hommes qui s'opposèrent à Moïse et à Aaron. Lorsque Moïse et Aaron sont allés devant Pharaon, vous savez, en Exode chapitre 7, ils sont allés les voir, ils ont dit, laisse partir le peuple. Et là, il y a deux magiciens qui étaient auprès de Pharaon, qui étaient sans doute bien habillés avec un habit, sans doute des prêtres, des magiciens, vous voyez. Enfin, en Égypte, à l'époque, tout était mélangé. Et pour montrer leur puissance, ils jettent leur bâton et le bâton se transforme en serpent. Vous vous souvenez de ça? Et puis, que s'est-il passé? Le bâton d'Aaron a été jeté au sol. C'est devenu un serpent qui a englouti le serpent de ces hommes-là. Il faut vérifier. Faut vérifier. Dans les derniers jours, des Jannès et des Jambres se lèveront, mes frères et mes sœurs, et même au sein de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils vont égarer les autres. Ils vont s'égarer eux-mêmes. Ils enseigneront des doctrines d'hommes et des doctrines de démons. Et on le verra. Il est écrit que dans les derniers temps, il y a des gens qui enseigneront des doctrines et voire même des doctrines humaines, mais des doctrines de démons. Et allez voir comment est le diable dans la parole de Dieu, vous verrez. Il y aura des enseignements qui pousseront, et je l'aborderai peut-être la semaine prochaine, les gens, vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup d'enseignements sur l'élévation de soi. Tu dois être épanoui, tu dois être élevé. Mais tout ça, c'est de l'orgueil. La croix est tout autre. Le message de la croix, c'est meurt. Le message de la croix, c'est meurt pour ressusciter en Christ. Le message de la croix, c'est humilie-toi et tu seras élevé. C'est ça le message de la croix. Et aujourd'hui, il y a des messages qui circulent et des faux enseignements qui sont en train de nous amener un petit peu à la fois à dire, il faut que tu existes. Il faut que tu prennes ta place. Alors que Jésus a dit, si quelqu'un prend ton manteau, vas-y, donne-lui l'heure, et même donne encore avec. Voyez, aujourd'hui, on est en train, un petit peu à la fois, de nous faire évoluer dans notre mentalité, de manière à ce que lorsque nous allons entendre certains enseignements, nous allons plonger à pieds joints dedans. Ces hommes auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et le force ici, c'est dynamis. Ça donnait le nom de dynamite. Vous voyez, c'est puissant. C'est utilisé aussi pour le mot miracle. Quand Jésus dit, il fit tel miracle, le mot utilisé, c'est dynamis. ici en grec. Waouh. Donc, lorsque Jésus fait des miracles, le mot dunamis est utilisé. Lorsque Jésus sent une force sortir de lui, vous savez, cette femme qui vient toucher le bord de son vêtement, Jésus sent une force sortir de lui, c'est ce mot-là qui est utilisé. Il y a une différence tout autre entre le dunamis de Dieu et le dunamis de ces hommes-là. Ces hommes, ils ont le pouvoir de séduire, mais ils n'ont pas le pouvoir de nous transformer. Ces hommes, ces enseignements-là ont le pouvoir de nous dire « Ah, mais ça change pas le cœur à l'intérieur. » Parce que ce que Satan veut aujourd'hui, c'est amener la religiosité dans l'Église. Il veut amener des hommes et des femmes qui vont paraître, mais qui ne seront pas transformés de l'intérieur. Or, lorsque Jésus vient, on a fêté Noël, lorsque Jésus vient dans le monde, il vient non pas pour te mettre un autre habit, mais il est venu aussi changer ton cœur. Il est venu pour switcher en quelque chose, changer le cours des événements. On le voit bien, il est écrit dans l'Épître aux Romains. Et dans l'Épître aux Romains, il est écrit que la loi n'a pas pu changer le cœur des hommes. Et que Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené l'Esprit avec la parole. Aujourd'hui, dans les églises, on dit « tu dois être rempli du Saint-Esprit ». Mais que fais-tu de la parole? À chaque fois, vous voyez l'Esprit et la parole agir ensemble. L'Esprit et la parole, c'est ça la puissance qui change les cœurs. C'est-à-dire que tu peux parler en langue, mais ton cœur ne sera pas changé si tu ne laisses pas la parole de Dieu venir. Et aujourd'hui, on a des soirées, on peut avoir des soirées d'adoration. On peut vivre des belles choses, on sent la présence de l'Esprit en nous, mais à chaque fois, l'Esprit veut nous ramener dans ce que Jésus a enseigné. Et l'Église, aujourd'hui, elle doit comprendre, mes frères, mes sœurs, elle doit comprendre qu'elle doit aimer la parole et aimer l'Esprit de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, j'étais enseigné comme ça. Et on m'a dit tout le temps, mon pasteur m'a toujours dit, Bruno, la parole et l'esprit, ils sont inséparables. Et vous savez, les déviances, ce qui change après, ce qui ne change pas le cœur des gens, mais qui va nous faire switcher, c'est lorsqu'on va rechercher uniquement la parole, la parole, la parole. Il est écrit, on va en faire quoi? Des légalistes. Et puis, vous allez prendre des gens qui vont négliger la parole et qui vont prendre l'esprit, l'esprit, l'esprit. Oh, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Eh bien, vous savez ce qu'on va en faire? Des mystiques. Alors que la parole et l'esprit, c'est ça qui change. C'est ça le dynamisme de Dieu. C'est ça qui change mon cœur. C'est ça qui va changer ma vie. C'est ça qui va faire de moi un disciple. La force de la piété, c'est la puissance de la transformation. C'est la puissance du changement intérieur. Comment tenir à l'heure face à ces temps difficiles, si vous les considérez comme difficiles? Pour toi, dit Paul. Il y a des temps difficiles il y aura des temps difficiles. Mais toi, dit Paul à Timothée, regarde comment j'ai vécu, ce que j'ai enseigné et le témoignage de ma vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est difficile aujourd'hui. Non, on sait que notre exemple, c'est Christ. C'est Jésus, hein? D'accord? Et surtout, ne prenez pas exemple sur moi. Parce que... Mais néanmoins, comme c'est important d'avoir des pères. Je vois Paul avec Timothée, fils, père, fils spirituel ensemble. Et je vois comment Paul a dit, comment il est... Il est en train de dire, regarde, moi dans ma vie, j'ai fait ça. Si tu pouvais un peu me ressembler, faire un peu. Vous savez, moi il y a un truc, quand je suis devenu presque adulte, quand j'ai... Mon père n'était plus un exemple pour moi. Hein. Je le vois bien, j'étais papa de trois fils. Jusque l'âge de 12-13 ans, j'étais le modèle. Hein. Papa a dit, papa fait, papa, je veux faire comme papa. Du jour au lendemain, ils sont devenus adolescents. Ouais, je veux exister. C'est bien d'être dans son identité. Mais on doit se référer comme avec des personnes. Et il y a des personnes qui ont vraiment marqué l'histoire de l'Église aujourd'hui, dont nous pouvons lire l'histoire. Je pense à Wesley, je pense à des gens, des réformateurs, je pense à des gens qui sont allés. Et peut-être aussi parmi vous, vous voyez des exemples de personnes que vous pouvez imiter. Toi, dit-il, demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnu certaines, sachant que tu les as apprises. De qui tu les as apprises? Retiens mon enseignement, mes écrits. Vous savez, aujourd'hui, on rejetait toute doctrine nouvelle. Il n'y a pas une doctrine nouvelle qui ne sort pas tous les mois, aujourd'hui. Il y a des, je vous assure, quand on a un peu l'oreille attentive à ce qui est dit dans certains enseignements, il faut faire gaffe, Non, revenez à l'essentiel. Revenez à la parole de Dieu, revenez à ce qui est écrit. Pourquoi vouloir changer ce qui a déjà été écrit? Pourquoi vouloir trouver des choses nouvelles alors que tout est écrit? On cherche aujourd'hui sans cesse à se renouveler, à dire mais Dieu, donc on veut attendre le sens des Écritures alors qu'il y a des choses toutes simples que nous n'arrivons pas encore à appliquer, mes frères et mes sœurs. Je me trompe ou pas? Répondez-moi. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Donc attention aux nouvelles doctrines qui poussent ça et là et qui sont enseignées. Et je fais une petite référence à toi, Josiane. Ne déplace pas la borne ancienne, car tes pères que tes pères ont posées. Il y a des bornes qui ont été posées ici. Il y a des choses qui ont été écrites ici. Ne déplaçons pas les bornes qui ont été posées par les écrits des apôtres. Ne déplaçons pas, restons dans ce que Dieu a dit par les apôtres. Ça, pour ceux qui n'ont pas le groupe, ils sont pas dans le groupe Betsalel, c'était un verset qu'il fallait trouver à partir d'un rébus que nous a envoyé Josiane. Et j'avoue que j'ai cherché au moins une heure, mais j'ai trouvé Proverbe 22:28. Et du coup, ça m'a interpellé par rapport au message d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous le dis. Ce ne sont pas les expériences de puissance qui doivent nous motiver. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, il y avait une puissance chez Jean Bresse et Jeunesse. Il y avait quand même, c'était impressionnant quand même. Moi, prenez un gars ici qui balance son bâton et ça devient un serpent. On pourrait dire c'est la puissance de Dieu qui est là. Non? Quand même. Quelqu'un, il y a des gens, il est écrit, il y a des gens qui feront des miracles dans les derniers temps, et qui iront jusqu'à séduire et égarer les croyants. Alors c'est quoi qui va, quelle est ma jauge, quelle est ma rambarde, quelle est la chose qui m'empêchera de pas tomber? Je vais expliquer. Je pense que c'est une révélation que j'ai reçue cette semaine. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu recherches dans la puissance? Est-ce que tu recherches la puissance pour la puissance? Ou est-ce que tu recherches la puissance pour la transformation des cœurs? Et ça m'a percuté le cœur. Et je peux vous dire que je me suis repenti. Parce que je prie souvent, et le matin on prie souvent pour ça. J'ai prié pour que la puissance de Dieu, je prie, Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Mais pourquoi je veux la puissance? Moi je veux voir la puissance de Dieu pour voir les gens être guéris. Mais être transformé de l'intérieur. Vous êtes d'accord avec ça? Donc faites très attention, parce que le jour où vous voulez voir la puissance, pour voir la puissance, c'est vraiment un piège. Vous tombez dans le piège de Jean Bresse et Jeunesse. C'est pourquoi il y a eu dans l'Église parfois des gens qui avaient toute la puissance de Dieu, donc la vie n'était pas transformée. Et il y a eu des enfants de chrétiens qui voyaient leurs parents prêcher, qui voyaient leurs parents prophétiser, prier pour les malades, et qui donc le père ou la mère rentre à la maison et ils voyaient les parents s'insulter. Et ils disaient, mais pourquoi y a-t-il une différence aussi énorme entre ce que je vois le dimanche ou pendant les réunions de l'Église et à la maison. C'est parce que ces gens n'avaient pas compris quelque chose d'important. Dieu veut t'utiliser avec puissance, mais il veut aussi te transformer avec puissance. La dynamisme de Dieu se trouve dans les Écritures, mes frères, mes sœurs. C'est ça qui va changer notre vie. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'en ai fini. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de prendre un temps. Et vous savez que ta gloire descend dans ce lieu et que d'ici, qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ce parfum. Et afin que cette puissance qui vient là, elle transforme la vie des autres. Elle change le cœur des autres. On va prier si vous voulez bien. Et on va laisser le Saint-Esprit nous toucher, toucher notre cœur, toucher notre vie, toucher notre âme, toucher notre corps. Amen.